place publique.
Comment prendre en charge les personnes violentes souffrant de handicap comme l'autisme? La question est posée par l'homicide commis à Tramelan le mois dernier. Place publique reçoit dans un instant le directeur de la Fondation de Châteloise des Perce-Neige, seule institution de l'arc jurassien à disposer d'unités spécialisées pour ce genre de cas. Vague de chaleur, extinction d'espèces, montée des océans, plus question de perdre du temps pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Les experts du GIEC ont présenté lundi leur dernier rapport en pressant les États à agir vite et avec des mesures radicales. On en parle avec la professeure de climatologie Martine Rebeté. Nous verrons aussi comment doper le commerce local grâce aux bouches à oreille. Vous entendrez parler d'une formule venue des États-Unis qui semble faire des merveilles dans l'arc jurassien.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. L'homicide de Tramelan est encore dans toutes les mémoires. C'était il y a un peu plus de 2 semaines. Après le choc, vient le temps des interrogations. En effet, ce drame pose la question de la prise en charge des personnes violentes souffrant de handicap, notamment dans la région. En l'occurrence, l'homme qui a avoué être l'auteur des coups de couteau est un jeune adulte de 19 ans, autiste, atteint de troubles du comportement sévère. Il était placé par la justice bernoise des mineurs dans la seule institution de l'arc jurassien adaptée pour ce genre de cas. Il s'agit de la Fondation des Perce-Neige au Haut-Genevais, dans le canton de Châtel. Et nous recevons justement le directeur des Perce-Neige, Vincent Martinez. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir dans Place Publique. Alors, sans pouvoir parler de l'affaire de Tramelan en particulier, il vous semblait important de clarifier le contexte de ce tragique épisode, mais aussi de répondre aux enjeux, aux questions qu'il pose, à commencer par le rôle de votre Fondation des Perce-Neige.
Oui, merci pour l'invitation. C'est clair que quand on voit ce qui a pu être écrit, on vit un vrai drame, ce qui s'est passé, il y a quand même la mort de quelqu'un, ce qui est important, mais on est en train de tout mélanger, on est en train de citer finalement que les Perce-Neige est une institution fermée pour les cas psychiatriques, ce qui n'est pas le cas. Les Perce-Neige accompagnent 800 personnes, des enfants de 0 jusqu'à, on va dire 0 jusqu'à 76 ans, notre doyenne. Donc on est dans des milieux où toutes les personnes ne sont pas comme ça, du tout. Et on a différents secteurs d'activité. Vous imaginez, il y a 800 personnes, des gens qui ont un handicap très léger, qui ont un handicap très sévère, et des gens autistes, des gens pas autistes, des gens avec des troubles du comportement ou pas. Et on est en train de tout mettre dans le même paquet, et c'est dommage.
Parmi ces 800 personnes, il y a quand même une infime partie, qui présente des troubles de comportement et qui sont potentiellement violents. Et cela, vous les accueillez aussi, mais en milieu fermé.
Exactement. On peut parler d'une vingtaine de personnes au niveau des adultes et des enfants. Et puis, avec un trouble du comportement moyen sévère, en tout 80 personnes. Donc 10% de la population qu'on accompagne peut présenter des troubles sévères du comportement.
Et je le précisais tout à l'heure, vous êtes la seule institution dotée d'unités fermées dans l'arc jurassien, ce qui explique la présence de ce jeune homme chez vous.
Alors fondamentalement, on est la seule institution socio-éducative qui propose ce genre d'accompagnement. Après, je tiens juste à préciser que l'arrivée de cette personne se fait sur un parcours de vie où il y a un diagnostic qui est posé. Comme vous l'avez signalé, personne autiste avec déficience intellectuelle et troubles sévères du comportement, qui est une des missions de la Fondation des Perce-Neige. C'est pas l'unique, mais c'en est une. Donc c'est un développement qui fait que logiquement, au donné, il est arrivé chez nous. Oui.
Et il ne souffrait pas, ou il ne souffre pas de troubles, enfin d'une maladie psychique. Pourquoi c'est important de faire la distinction?
Quand on parle de l'autisme, on parle de gens qui sont nés autistes. On ne guérit pas de l'autisme. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place tout un développement d'accompagnement spécialisé pour permettre à ces gens de se développer et de vivre, soit dans la société, soit dans des milieux fermés, si on pense que on lié aux troubles du comportement, il y a question de protéger aussi l'environnement autour, que ce soit les familles, les autres personnes handicapées ou évidemment la population dans un sens ordinaire.
Et dans de tels cas, qu'est-ce qui est fondamental au niveau de la prise en charge?
Alors, on parle bien de personnes autistes avec troubles sérieux du comportement, déficience intellectuelle. Fondamentalement, on est dans des comportements défis qu'il faut gérer, c'est-à-dire qu'il faut mettre des structures, il faut structurer l'activité par jour, par heure, des fois par minute. Et on est dans des principes que des fois on trouve ça, vu de l'extérieur, difficile, mais de récompense-sanction. Et on peut dire qu'on peut aussi faire travailler les gens pour qu'ils puissent se développer et comprendre aussi la relation à l'autre qui n'est pas uniquement entrée en communication par des coups, par exemple, ce qui est assez fréquent quand on parle de ce type de personnes-là, mais on peut entrer en relation de façon correcte et juste.
Donc un milieu où les règles sont plutôt rigides, si je vous comprends bien.
Alors complètement rigides, ce qui est des fois aussi compliqué à expliquer, même au sein de la Fondation Les Pères Neiges, quand vous avez des personnes qui sont intégrées dans la société ordinaire et que vous êtes l'éducateur de ces personnes-là, ou le moniteur d'atelier, ou l'enseignant, vous avez de la peine à comprendre que dans la même fondation, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui, lui, est dans un milieu fermé parce qu'il a besoin de cette structure-là.
Et on l'a vu dans le cas de Tramelan, être en milieu fermé n'exclut pas de pouvoir bénéficier de bons de sortie. Alors qui décide et selon quels critères qu'une personne potentiellement violente, on le rappelle, a le droit de sortir pour retrouver par exemple sa famille ?
Alors si on prend l'exemple, il faut le prendre dans le sens général. Comme ça a été signalé, on ne parle pas de la situation en tant que telle. Simplement, c'est une discussion entre les différents partenaires. Ça peut être un service placeur, ça peut être les parents, ça peut être évidemment les professionnels. On analyse les comportements qu'il y a eu, et puis de là, on dit, OK, on va partir dans une sortie qui sera très organisée et très, je dirais, minutée, avec tous les principes de sanctions ou si récompense en cas de soucis ou pas, en tant que tel. Donc, pour toutes ces personnes-là, il y a toujours ce lien qui est fait.
Donc, sans votre accord, il n'y a pas de bon de sortie, par exemple.
Si on devait se trouver dans une situation où on pense que quelqu'un serait dans les comportements, défi, oui, on pourrait dire non, à un moment donné, nous, on n'est pas d'accord qu'il puisse sortir en tant que tel. Néanmoins, quand on est dans des situations comme ça, ben c'est clair qu'on tient compte de 15, 20 derniers jours, voire du mois entier, de se dire, OK, dans le comportement, ça jouait, il n'y a pas de raison de poser. Après, il y a aussi la demande, en général aussi des parents, qui souhaitent revoir leurs enfants. C'est parce que vous avez un enfant qui a un handicap sévère, un autisme et des troubles du comportement, que vous n'êtes plus le papa ou la maman. Donc ces gens aussi, le droit, et c'est normal de voir leur enfant. Donc ça pose aussi ce lien de confiance et puis de partenariat, aussi dans certains cas avec la justice, pour être d'accord, pour proposer effectivement des sorties qui normalement se passent effectivement, je dirais, en clairement très bien.
Mais ça veut dire aussi que pour les parents, pour les familles qui accueillent le temps d'une sortie un proche atteint de ces troubles, c'est une immense responsabilité. Est-ce que ce n'est pas trop leur faire peser de responsabilité sur les épaules ?
Je ne crois pas. Les gens, normalement, la personne qui connaît mieux leur enfant, c'est les parents. Les parents doivent sentir aussi, comme nous, c'est le moment ou pas d'accueillir la personne pour faire une activité, avoir un moment de vie ensemble. Donc c'est les parents, c'est les principaux, je dirais, partenaires, c'est les principaux acteurs de la vie de leur enfant aussi. C'est clair qu'après coup, quand on a un enfant autiste avec trop sévère du comportement, peut-être ça peut être aussi difficile de l'admettre et de travailler, mais c'est aussi difficile pour des collaborateurs d'admettre qu'une personne à qui vous avez passé des moments fantastique peut, par des soucis, par des éléments de frustration, devenir agressif.
Mais ça veut dire que le faux pas est vite commis. Vous parlez de timing à la minute, parfois, y compris pour le personnel soignant, pour le personnel socio-éducatif, y compris pour la famille. Une erreur est vite arrivée. Est-ce que vraiment ces bons de sortie ne doivent pas être remis en cause ?
Non. Le principe veut, quand même, bien sûr, je répète, l'issue de cette sortie est dramatique, mais on doit donner la chance aux gens de pouvoir sortir, d'être intégrés dans la société, avec l'encadrement nécessaire, avec l'encadrement que peut donner une famille. Ils font partie de notre société. Ça serait complètement un déni de liberté de dire que les personnes, parce qu'ils potentiellement sont dangereuses, mais il y en a beaucoup dans notre société. Il n'y a pas que les personnes avec ce trouble de sévère du comportement, il y en a plein d'autres à qui on laisse une chance. Et on oublie souvent qu'une bonne partie des gens qui bénéficient de ces sorties dans un sens large ne posent pas problème en tant que tel.
Vincent Martinez, on vous retrouve dans un instant. Le temps de faire un bref rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Jean-Paul Pitchy.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et on est de retour avec Vincent Martinez, directeur de la Fondation des Pères Neiges, une fondation qui accueille des personnes qui souffrent d'autisme, de troubles de comportement, notamment, c'était le cas de la personne qui a commis cet homicide à Tramelan. On parle des bons de sortie dont peuvent bénéficier ces résidents, des bons de sortie qui font parler, forcément, parce qu'il y a un risque. Vous dites qu'il faut les maintenir, on peut avoir les garanties que ça se passe bien, et c'est le cas dans la plupart des cas. Mais quand ça se passe mal, eh bien, il faut en tirer des leçons. Vincent Martinez, quelle remise en question s'impose après ce tragique fait divers ?
Il s'agira d'attendre les résultats des deux enquêtes qui sont en cours pour avoir tous les éléments plus précis. Néanmoins, premier élément que je tire, moi, c'est la communication qui doit être faite aux, on va dire, la population ordinaire sur le monde de l'autisme. On est en train, à juste titre, je comprends aussi, plutôt de nous parler toujours des personnes autistes Asperger. On vous fait des séries avec des médecins qui vous expliquent plein de choses, c'est merveilleux. Ça représente 5% de la population autiste. Environ 60% ont une déficience intellectuelle, 60%, 30% ont des troubles sévères du comportement. Alors, il ne faut pas tous les mettre dans le même paquet. Chaque personne autiste est différente. Mais il s'agira quand même, vu ce que j'appelle moi l'augmentation massive quand même du nombre d'autistes qu'il faut, de personnes autistes qu'il faut accompagner, de réfléchir. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, si on fait des statistiques, alors des fois les statistiques peuvent se tromper, mais c'est 2 à 3 personnes qui naissent. Enfin, il y a 18 naissances d'enfants autistes dans le canton, dont 2 ou 3 auront ces troubles sévères du comportement, avec ou sans déficience intellectuelle. Donc, il y a à réfléchir aussi quel accompagnement, parce que ça va augmenter en tant que tel, pour professionnaliser ce que nous avons déjà fait dans nos petites unités qui prennent en charge, mais il y en aura plus. Je dois dire que le canton est attentif à ce souci-là. Il faudra trouver des solutions à mettre en place. C'est souvent des dispositifs qui sont coûteux. Et là, ça pose toujours le problème des financements, évidemment, puisque chaque fois qu'on dit qu'il faut un tant soit peu d'argent pour l'humain, je mets dans un sens large, hein, aujourd'hui c'est aussi la journée mondiale, je crois, de la santé mentale, dans ce sens large, qu'est-ce qu'on est d'accord de ne pas mettre en avant ou pas financièrement pour gérer des personnes ou accompagner des personnes handicapées dans tous les sens du terme du handicap.
Mais vous ne nous dites pas aujourd'hui, on manque de moyens, d'où des problèmes qui peuvent se poser de manière très concrète sur le terrain ?
Non, actuellement, dans ce qui a été mis en place pour les 3 unités que nous gérons au niveau des adultes, donc hein, je rappelle 20 personnes sur 800 personnes quand même accompagnées, il ne faut pas oublier les autres, nous avons les encadrements, nous avons surtout des professionnels formés, aguerris et qui sont d'accord de travailler avec ce type de population, et ça c'est très important.
Mais Vincent Martinez, il y aura tout de même, ou il y a peut-être déjà, un après Tramelan. Est-ce que ces bons de sortie, après ce qui s'est passé, seront délivrés aussi souvent ou facilement qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent ?
Ils n'ont jamais été donnés facilement. C'est toujours des éléments de négociation, de discussion et de qui va être responsable de. On pose des éléments. Donc ça n'a jamais été facile. Ça ne s'est jamais posé facilement, un bon de sortie, un élément de sortie. C'est des professionnels qui s'en chargent, qui sont convaincus que c'est la bonne idée. Quand je dis professionnels, je parle aussi de tous les éléments qui sont liés avec la justice. Tous les professionnels, c'est aussi un bout les parents. C'est aussi les professionnels socio-éducatifs.
Mais est-ce qu'il y a un après Tramelan ?
Il y aura toujours un après Tramelan. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est décédé. Et je dois dire que, foncièrement, à titre privé, à titre personnel, je dors mal depuis. En train de se dire, ok, la situation en fait, on a une mission remplie, mais finalement, est-ce qu'on arrive tout contrôler ou pas ? Et puis, on arrive à quoi ? Quelqu'un qui meurt.
Donc, principe de précaution ?
Le principe de précaution, il est essentiel, il est posé, il était déjà posé. Il a à être réfléchi, mais je parle en sens large, avec cette augmentation de se dire, il nous faut des gens aguerris et il faut que la population comprenne que oui, l'autisme ou le handicap, selon le type de personne, ça peut amener des éléments de dangerosité ou pas. Mais s'il vous plaît, ne fermez pas la porte aux personnes handicapées parce qu'il y a eu ce drame.
Mais pour l'instant, moins de bons de sortie, les familles aussi ont peut-être un peu peur.
Les familles sont déjà partie prenante et savent, connaissent aussi les éléments de, pour ce type de personnes, la dangerosité potentielle. Donc c'est souvent des gens qui sont tout le temps là avec quelques sorties par année. Il ne faut pas croire que si on prend même cette personne-là, qu'elle était tout le temps dehors. C'est, faut pas, et dans sa famille, ça, il faut oublier. Mais c'est pour tout le monde la même chose. Placement pénal ou pas.
Le nombre d'autistes va exploser, on en termine avec ça. C'est un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Vincent Martinez. Ça veut dire qu'une prise en charge idéale, si on devait l'imaginer, aussi pour faire mieux, ce serait quoi ? Ce serait des établissements plus grands, spécialisés, comment vous voyez les choses ?
Il s'agit de trouver le compromis entre des gens qu'il faut, qui puissent avoir ce lien avec la société, mais en protégeant la société et les protégeant eux de la société. Ça veut dire qu'il faut effectivement des établissements qui correspondent à leurs besoins au niveau des taux d'encadrement, des gens, de leur formation et surtout de l'espace nécessaire pour qu'on puisse travailler avec ces gens et puis qu'on puisse travailler tous ces éléments-là en partenariat, comme je rappelais aussi avant, avec les familles et puis les organes placeurs.
Et là, un projet est en cours d'étude, vous allez le proposer ?
Nous avions déjà, avant ce drame, écrit à l'État de Neuchâtel, mais qui sont déjà au courant et qui sont partenaires déjà de trouver des idées, des solutions. Donc ça fait quand même quelques années qu'on réfléchit à ces éléments-là. Peut-être que, malheureusement, on va dire, ça pourrait peut-être donner un élément d'accélération en tant que tel. Mais le souci, il est déjà là, il est évoqué, il est posé. Il faut savoir aussi qu'actuellement, nous avons des personnes autistes qui sont en milieu psychiatrique. Ce n'est pas la place d'une personne autiste, la psychiatrie. C'est un handicap.
Vincent Martinez, merci beaucoup d'être venu dans Place Publique répondre à nos questions. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
À bientôt.
Place Publique.
Les scientifiques sont plus alarmants que jamais. Il est urgent d'agir si l'on veut pouvoir limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Les États doivent engager des transitions rapides et sans précédent. Les 15 à 20 prochaines années seront les plus décisives de notre histoire si l'on veut éviter des changements irréversibles. Les experts du climat du GIEC ont présenté lundi leur dernier rapport, un document adopté d'ailleurs par les gouvernements du monde entier. Et selon le GIEC, notre climat se détériore plus vite que prévu et les pires scénarios se réalisent. C'est d'ailleurs l'avis aussi que partage Martine Rebeté, professeure de climatologie à l'Université de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Institut fédéral de recherche WSL.
Oui, c'est exactement dans cette direction qu'on va, avec tous les rapports du GIEC qui ont toujours été extrêmement prudents, et la réalité va à chaque fois au-delà du plus mauvais scénario ou du scénario le plus grave pour les humains.
Rien que cette année, on voit que les tornades se succèdent. Il y en a une qui va frapper une côte de Floride la nuit prochaine. En Suisse, on attend la pluie plus que jamais. C'est ces signaux-là auxquels on se doit d'être attentif.
C'est en tout cas le cumul de ces signaux, le cumul des événements extrêmes qui sont renforcés par le réchauffement climatique. Bien souvent, ce ne sont pas des phénomènes qu'on ne connaissait pas du tout auparavant, mais on a une plus grande fréquence de ces phénomènes ou des intensités qui sont renforcées par l'augmentation des températures.
Les experts du GIEC évoquent l'hypothèse d'un réchauffement contenu à plus 1,5 degré par rapport à la pré-industrialisation, 1,5 degré, on parlait souvent de 2 degrés. Que change ce demi-degré ?
Ça change beaucoup parce que par rapport au réchauffement qui nous resterait à atteindre, on est du simple au double. Le demi-degré ou le degré entier, c'est le double. Donc c'est, en fait, la différence est énorme.
Et surtout, depuis cette fameuse ère de pré-industrialisation, on a déjà assisté à une augmentation, à un réchauffement de 1 degré.
Oui, c'est quasiment depuis les années 70 qu'on a augmenté les températures de 1 degré. Donc c'est assez rapide, c'est pendant quelques dizaines d'années. Bon, ça c'est la moyenne pour l'ensemble du globe, y compris au-dessus des surfaces océaniques. Mais en Suisse, par exemple, on est au double de cette valeur. Et si vous prenez les régions polaires, on est encore à des valeurs qui sont bien plus élevées. Donc localement, régionalement, on a des réchauffements qui sont vraiment très très importants.
Et ce scénario n'est pas le scénario idéal, on parle bien du moindre mal.
Oui, parce que aujourd'hui on est encore dans des proportions acceptables dans ses conséquences avec le degré qu'on a déjà atteint. Mais là, si on part pour encore davantage, évidemment, c'est pas juste un cumul par rapport à ce qu'on a déjà. On a plutôt des phénomènes qui enflent de manière disproportionnée par rapport à l'augmentation effective de la moyenne. Peut-être pour être plus clair, les extrêmes de température en été, les canicules, si on a un degré de plus en moyenne, vous allez avoir plusieurs degrés d'augmentation ou degrés supplémentaires pendant les périodes extrêmement chaudes, parce que le phénomène enfle.
Alors selon le GIEC, selon les experts, il reste 30 ans au plus tard pour agir. Mais quand on voit la difficulté d'opérer la transition énergétique au niveau des infrastructures, mais aussi la difficulté que tout un chacun a de changer ses habitudes, est-ce que cet objectif est seulement tenable ?
Alors, c'est pas possible de tenir cet objectif en continuant de faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire avec des économies de bout de ficelle et puis en maintenant l'essentiel sans avoir une redirection drastique. On a les techniques, on a économiquement, c'est vraiment tout à fait possible. On va vers probablement plus de qualité de vie, plus d'emploi, de la génération même de bien-être et de bénéfices en tournant vers des nouvelles énergies. Mais ce n'est pas les mêmes qui gagnaient avant, qui vont continuer à gagner dans le futur. Donc on a une forte résistance avec des lobbies extrêmement forts qui peuvent investir l'argent des énergies fossiles pour maintenir le statu quo et éviter qu'on évolue.
Raison pour laquelle ce n'est pas étonnant qu'on lise ces jours-ci des antithèses. Par exemple, le spécialiste des avalanches, Werner Münter, dont une interview circule sur les réseaux sociaux, pour qui cette arrogance de croire qu'en 150 ans, l'homme a changé quelque chose.
Oui, on a toujours ces phases de désinformation qui sont très bien orchestrées, bien organisées, à chaque fois qu'on a la publication de résultats de recherche qui vont entraîner l'action politique, et une action politique qui va vraiment risquer de réduire la consommation du pétrole et du charbon.
Donc, c'est de la désinformation pour vous ?
C'est de la désinformation pure, puisque c'est contraire aux faits observés.
Alors, plusieurs voies sont possibles pour lutter contre le réchauffement. Alors, évoquons la voie scientifique, technologique. Il y a des pistes ambitieuses dont on parle, le pompage du gaz carbonique, des aérosols dans l'atmosphère pour réfléchir le rayonnement solaire, ou encore fertiliser les océans. Autant de voies prometteuses, mais est-ce qu'elles seront prêtes à temps et à suffisamment large échelle pour changer quelque chose ?
Alors, il y a déjà beaucoup de voies qui sont pas seulement prometteuses, mais qui sont déjà prêtes. Changer tout ce qui concerne le chauffage ou le rafraîchissement des locaux, là, on est aujourd'hui déjà capable d'avoir des techniques qui consomment aucune énergie fossile. L'énergie solaire est capable de faire énormément et aujourd'hui, on a les techniques pour l'utiliser. Après, tout ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou les quantités de gaz à effet de serre qui se trouvent dans l'atmosphère sera bon à prendre, mais pas au prix d'une perturbation d'autres systèmes comme les océans, la circulation océanique, la vie, la pollution de l'air et ce genre de choses. Bien souvent, dans les techniques que vous avez évoquées, ça nécessite d'utiliser beaucoup d'énergie pour y parvenir. Donc là, évidemment, c'est pas ce qu'on veut non plus.
Il y a le rêve qu'un jour la science puisse nous permettre de compenser nos émissions de CO2, mais quoi qu'il arrive, pour que ça change, pour que le réchauffement soit contenu, il faut des mesures drastiques au niveau du quotidien de tout un chacun.
Oui, c'est des mesures au quotidien, mais c'est aussi beaucoup des orientations politiques pour faire en sorte que le virage se prenne. Et je pense que c'est le message essentiel qui vient aujourd'hui avec les résultats de ce rapport, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire les tout petits pas qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire ce qui se fait à peu près tout seul par une évolution naturelle. Et c'est exactement ce qu'on fait en Suisse, c'est que en général, on demande aux capitaines d'industrie, bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire qui coûte rien à personne, et puis voilà nos objectifs, et puis le reste on le fera à l'étranger. On peut plus faire comme ça, parce qu'en Suisse on est vraiment beaucoup trop en retard et on devrait être en avance pour pouvoir être suffisamment pionnier dans les techniques aussi d'implantation par rapport à la société et pouvoir vendre nos technologies à l'étranger plutôt que d'attendre avec des technologies du passé qui se maintiennent et qu'ensuite on doive aller acheter à la Chine ou ailleurs les technologies du futur. Ça fait pas de sens par rapport au développement actuel de notre pays.
Est-ce que vous allez jusqu'à dire, comme l'organisation environnementale Greenpeace, que le Conseil fédéral et le Parlement sont carrément en la matière irresponsables ?
Je pense que de plus en plus, on va dans des situations où les États sont même attaqués sur le plan judiciaire par rapport à la responsabilité qu'ils prennent.
C'est le cas en Suisse.
Voilà, et puis on commence à avoir des cas à l'étranger où, s'agissant des Pays-Bas par exemple, récemment on a eu confirmation d'un jugement qui oblige le gouvernement à réduire davantage les gaz à effet de serre que ce qu'il avait prévu de faire.
Donc on parlait de la voie scientifique, de la voie politique, finalement c'est la voie judiciaire qui serait la plus efficace.
Contre l'argent qui détermine les voies qu'on va suivre, c'est difficile de trouver une manière d'imposer le bien commun. Parce que lutter contre le réchauffement climatique, c'est vraiment trouver des solutions pour le bien commun de l'ensemble de la population suisse, d'aujourd'hui, de demain et de l'ensemble de la population mondiale. Si on travaille à l'amélioration de la qualité de vie dans l'ensemble du monde, c'est aussi la qualité de vie de chacun d'entre nous ici qui va s'en trouver amélioré.
Le Conseil fédéral n'est pas sourd. Il semble avoir entendu le message du GIEC, annonce le jour même qu'il va sans doute revoir à la hausse ses ambitions en matière de réduction de CO2. Pour vous, ça va dans le bon sens ou c'est encore un trop petit pas ?
Alors pour l'instant, c'est des mots. J'attends du concret. Et en particulier, jusqu'à présent, déjà dans ce qui était promis, on parlait de faire l'essentiel en payant d'autres pays pour le faire pour nous, ce qui, pour la Suisse, est absolument honteux que les Suisses qui ont de telles capacités financières et techniques ne soient pas capables de faire les choses chez soi. C'est vraiment donner le message à l'ensemble du monde, surtout ne faites rien si même la Suisse n'est pas capable.
C'était Martine Rebeté, professeure de climatologie à l'Université de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Institut fédéral de recherche WSL.
Place publique.
Chaque semaine, c'est le même rituel. Rendez-vous à 6h30 du matin pour un petit déjeuner de travail. Des dizaines d'entrepreneurs jurassiens se réunissent pour développer leurs affaires en exploitant au maximum leur réseau et le bouche à oreille dans la région. Chaque participant présente brièvement ses activités dans le but d'être recommandé par les autres membres présents et d'espérer ainsi acquérir de nouveaux clients. L'idée paraît simple, mais elle fonctionne. On appelle ça les BNI. Ça vient des États-Unis et depuis le mois d'avril, un groupe BNI s'est créé à Delémont avec aujourd'hui 50 membres. Il est même devenu l'un des 4 groupes les plus importants de Suisse, générant un chiffre d'affaires de 1 300 000 francs. Et on reçoit le directeur du groupe d'entrepreneurs BNI à Delémont, Claude Laville. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dès qu'on parle de réseau d'entrepreneurs, on pense au Lions Club, au Rotary, aux Onta ou encore à la Jeune Chambre internationale, et j'en oublie, à ne pas confondre du coup avec le BNI qui, au contraire de ces autres entités que j'ai citées, ne vise pas les mêmes buts, n'est pas à vocation philanthropique.
Non, en effet, si le Lions, le Rotary et autres Onta ont parfaitement leur place dans le réseautage et en ayant évidemment une mission philanthropique, chez nous, on ne se cache pas les choses. On se réunit tous les mardis matins pour faire du business, pour développer nos entreprises, pour, comme vous l'avez dit, profiter du réseau des uns et des autres pour élargir nos affaires, notre cercle d'affaires.
Et qui peut être membre de ce club, selon quelles conditions ?
Alors, pour être membre de ce club, il faut naturellement avoir une entreprise. Généralement, ce sont des entreprises de services, des entreprises de l'artisanat, les entreprises de l'hôtellerie qui sont membres du BNI. La particularité, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul représentant par type d'activité économique. Il peut y avoir une seule fiduciaire, un seul garagiste, etc. Ceci pour éviter la concurrence. Il faut ensuite faire une demande, déposer une demande qui sera examinée par le comité des membres et qui va valider ou non en fonction d'un certain nombre de critères, savoir si il n'y a pas concurrence, savoir si la personne a un réseau ou simplement c'est quelqu'un qui essaie d'entrer dans le groupe juste pour profiter du réseau des autres, et puis savoir aussi s'il est sérieux dans son travail, parce que pour pouvoir recommander quelqu'un, il faut qu'on soit sûr que le travail, la prestation qu'il fournit soit de qualité.
Et il faut aussi payer, hein, c'est pas gratuit pour être membre, c'est entre 1500 et 2500 selon qu'on compte ou non tous les frais, hein, qui sont induits. Un tel montant, on imagine, ça a de quoi motiver les membres à s'engager, c'est ça le but. C'est comme quand on prend un abonnement de fitness, ça nous incite à faire du sport.
C'est intéressant votre remarque. Je ne vais pas aller au bout de mon abonnement. Mais c'est vrai que 1500 francs, c'est la cotisation annuelle. Ceci va permettre de payer tous les frais, toute l'organisation, tout le fonctionnement avec les autres chapters. Et puis, chaque matin, il y a un petit déjeuner qui compte environ, il faut compter à peu près 12-14 francs par petit déjeuner. La présence est obligatoire. Ça, c'est aussi une des conditions, parce que sinon ça n'a pas de sens. Si le but du BNI, c'est que tout le monde soit attentif aux demandes de recommandations des uns et des autres, et si vous n'êtes pas là, vous n'apportez pas, parce que la philosophie de base du BNI, c'est qui donne reçoit, c'est-à-dire qu'on doit se faire un plaisir de donner, d'ouvrir son réseau à d'autres, et puis en retour, on aura le réseau des autres qui va s'ouvrir. Si vous n'êtes pas là, c'est juste pas possible.
Alors les membres se rencontrent chaque semaine, on l'a dit, sachant que notre région, elle n'est pas immense. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de tourner en rond après quelques mois ?
Non, on ne tourne pas en rond parce que effectivement, je veux dire, le nombre d'entreprises, le nombre d'affaires potentielles à faire sont assez importants. De plus, il faut savoir que quand on est membre du BNI, ici le groupe Jura, chaque membre peut aller présenter son entreprise dans un autre chapter, comme on les appelle, dans un autre groupe, à La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel, à Yverdon, etc. Ça le permet effectivement d'une part, si son réseau, si son rayon d'action dans son activité économique dépasse les frontières de la joie, du Jura et autres, de pouvoir trouver des clients ailleurs dans la Suisse romande, voire en Suisse alémanique, voire ailleurs dans le monde.
Oui, puisque c'est mondial. Alors vous avez évoqué les groupes qui existent dans l'arc jurassien, les montagnes neuchâteloises, le littoral, il y a Delémont et il y aura bientôt Sensbeau aussi.
Oui, effectivement, Hugues Steiner qui est le responsable régional, qui sera bientôt d'ailleurs le directeur de Suisse romande du BNI, est en train de constituer un groupe dans le Jura bernois Bienne. Il y avait un groupe Bienne suisse-allemand, mais il n'a pas marché, etc. Et là, il y a un groupe roman qui s'installe, ce qui va permettre aussi de créer une dynamique, c'est ça qui est très intéressant, entre La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, le Jura bernois et le Jura, qui est à peu près un bassin dans lequel chacune des entreprises, ou presque, a la possibilité, a décidé d'élargir son cercle. Alors, effectivement, là, si vous voulez, la qualité première d'être au BNI, c'est que c'est les recommandations, c'est-à-dire que vous voulez entrer dans une entreprise ou avoir un client particulier, vous ne le connaissez pas, quand vous vous adressez par le numéro de téléphone officiel, on vous dit oui, on vous rappellera, et puis comme ça, ah, on voit jamais rien revenir. Là, avec le BNI, eh bien, si je demande d'entrer dans une entreprise telle ou telle, il y a un membre qui est fait du faute, le connaît, c'est son cousin, son beau-frère, a participé à un tournoi de golf avec lui, puis va dire, ah, je le connais, il va l'appeler, et puis la semaine suivante, il va lui faire une recommandation. Et puis il va te dire, ben voilà, son numéro de téléphone, son adresse mail, tu peux l'appeler, il est au courant, etc. et tout. Et vous entrez directement dans la bonne personne. Si vous cherchez un RH, je pense à marketing ou un directeur, vous entrez avec la bonne personne.
Claude Laville, ça c'est la définition même du réseautage. Hein. Ça peut avoir lieu au sein du BNI, mais partout ailleurs aussi. Finalement, c'est la contrainte, c'est le côté chaque semaine. C'est aussi les frais induits par l'inscription qui font que on va plus loin que le simple bouche à oreille.
Non, c'est parce que, en fin de compte, moi, quand je suis au BNI le mardi matin, c'est comme si j'étais au boulot. Je suis dans la partie commerciale. Quand je me prépare pour aller au BNI, je sais ce que je vais rechercher. Je vais présenter un aspect particulier de mon entreprise. Et puis, je dis, ben voilà, je cherche telle ou telle entreprise parce que j'ai de la peine à entrer en contact. Et puis, moi, je suis au boulot le mardi matin. Et tous ceux qui sont là, et c'est pour ça qu'ils y prennent goût, ils sont au boulot. Et c'est pas une contraintes supplémentaires, et c'est aussi tôt le matin, parce que effectivement, c'est plus facile à 6h30, vous n'avez pas l'excuse de dire « Ah, mon rendez-vous, c'est prolongé, etc. et tout, je ne peux pas venir. » Donc, on sait qu'on est là pour ça. Et ça, c'est fondamentalement différent, alors que si je vais à un apéritif de la chambre de commerce, ben voilà, salut, c'est bien, on va se retrouver les trois même pour commencer, on va commenter les derniers résultats du HCA ou du BCB, et puis évidemment, on ne va pas forcément parler business.
Et on signale aussi que demain, vous faites une exception à la règle. Hein, vous proposez une rencontre spéciale à 18h30 et non plus à 6h30 du matin à Courtemelon. Là, l'idée, c'est d'inviter aussi les femmes entrepreneurs à entrer dans le jeu.
Oui, effectivement, c'est une volonté un petit peu de notre chapter. Nous sommes 50, nous aimerions qu'il y ait un tout petit peu plus de femmes entrepreneurs qui entrent dans le jeu. Et nous présentons demain, c'est ce qu'on appelle un BNI 19, à 19h, avec les réseautages qui commencent à 18h30. Et nous avons invité les femmes de l'association PME, Femmes PME, de l'association BPV, du Zonta, pour venir présenter. Et puis elles pourront aussi se présenter aux membres du BNI.
Merci beaucoup Claude Laville, directeur du chapter, comme on le dit, BNI Delémont, d'avoir présenté le principe de ces clubs d'affaires, de recommandations. On vous souhaite plein succès et bonne soirée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et c'est ainsi que s'achève Place Publique. Merci à Yannick Frossard pour la réalisation. Vous retrouvez l'émission, bien entendu, tout à l'heure sur nos sites internet ainsi que sur nos applications. Bonne soirée.
Place Publique.